Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale, le magazine d'ONU Info, célèbre le 70e anniversaire des casques bleus de l'ONU grâce au témoignage d'Anne Tuckerman. Cette journaliste française a été correspondante de l'agence France Presse à New York pendant près de 40 ans. Dès 1945, elle a pu ainsi assister au balbutiement de la jeune Organisation des Nations Unies et trois ans plus tard, à la création ex nihilo des casques bleus et des opérations de maintien de la paix. J'ai eu la chance de rencontrer, il y a pratiquement 20 ans, jour pour jour, Anne Tuckerman, au début du mois de mai 1998.
Anne Tuckerman, vous avez été pendant 38 ans correspondante de l'agence France Presse, l'AFP, donc auprès de l'ONU, et vous avez assisté en tant que telle à la création de ce que l'on peut considérer comme la première opération de maintien de la paix des Nations Unies, à savoir l'ONUS, l'opération des Nations Unies chargée de surveiller la trêve. Alors, rappelez-nous un peu le contexte de cette création.
Eh bien, l'État d'Israël venait d'être créé par l'Assemblée générale des Nations Unies et immédiatement, la guerre a éclaté, les États arabes voisins ont envahi le nouvel État et personne, au fond, n'était prêt pour ce genre d'événement, quoique la création de l'État n'était pas allée sans difficulté. Donc l'ONU a dû improviser. Au fond, ce qui s'était passé, c'était que les Anglais, essayant de résoudre le problème de Palestine, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, et ce qui n'est toujours pas fait, 50 ans après, pas tout à fait, en tout cas, se sont dit, eh bien, on va remettre la question à l'Organisation des Nations Unies. Elle est là, eh bien, pourquoi pas? C'était d'ailleurs la première fois que cela se produisait. Plus tard, dans l'histoire des Nations Unies, il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits qui ne pouvaient pas être résolus, où il y avait des affrontements armés, et les gouvernements disaient, certains gouvernements, eh bien, donnons-le à l'ONU. Et quand le secrétaire général était Dag Hammarskjöld, on disait, donnons cette affaire-là à Dag. Mais les Nations Unies, naturellement, n'avaient pas les moyens. Alors, il a fallu improviser. Et le Conseil de sécurité s'est réuni et a créé une organisation d'observation de la trêve. Ça s'est passé au mois de mai, le 29 mai, je crois, 1948. Cette trêve existait, le Conseil l'avait demandé, l'avait réclamé. Elle existait dans les textes, mais elle n'existait pas dans la réalité. Les combats continuaient, et donc comment faire pour faire observer cette trêve? Et c'est à l'origine de l'ONUS, ce qu'on appelle aussi, ce sont les lettres anglaises, l'UNSO, qui a été créée en même temps que l'ONU créait un poste de médiateur. Alors le poste de médiateur était pour les négociations, pour essayer de trouver une solution politique, tandis que le groupe d'observateurs avait une mission militaire pour observer et essayer, si possible, quoiqu'elle n'avait pas d'armes, pour essayer de faire observer la trêve, c'est-à-dire en fait faire des communications entre le centre, entre l'ONU, entre le quartier général et les divers éléments qui se tiraient dessus pour essayer de maintenir cette trêve. Et il y a eu plusieurs étapes dans la création de l'ONUS et dans son établissement.
Alors justement, le Conseil de sécurité, par la résolution 50, crée donc l'ONUS le 29 mai 1948. Les premiers contingents, ces 36 observateurs, sont déployés dans le courant du mois suivant, à partir du 11 juin. Donc comment, à partir de ce moment-là, s'est effectué sur le terrain le travail concrètement et comment vous qui étiez au siège était perçu ce travail délicat d'observation de la trêve?
Eh bien, nous avions des communiqués tous les jours, plusieurs fois par jour, mais il s'agissait surtout donc d'opérations militaires qui aboutissaient au secrétariat et qui étaient transmises aux officiers, enfin au personnel militaire. Les journalistes s'occupaient plutôt à l'époque de la question diplomatique, la question maintenir la trêve. Pour cela, il fallait un accord. Inutile de dire combien cet accord a été difficile, mais il y a eu un accord provisoire. Le premier médiateur était le comte Folke Bernadotte, qui a essayé de trouver une solution, d'avoir des négociations avec les uns et les autres.
Le comte Bernadotte, médiateur suédois désigné par les Nations Unies. Le 11 juin, il réussit à imposer une trêve. Il est optimiste.
And I believe, and I think I have the right to believe that we sooner or later...
Il a été, peu de temps après, en septembre 1948, il a été assassiné par le groupe extrémiste Stern d'Israël à l'époque. Alors il a fallu nommer quelqu'un d'autre très rapidement, et le secrétaire général a nommé un Américain, un noir américain, qui était un important personnage au sein du secrétariat, qui s'appelait Ralph Bunche. Et donc Ralph Bunche a eu le poste de médiateur par intérim. Il s'est rendu sur les lieux et il a créé, je pense, une diplomatie à part qui depuis a été reprise et devenue une chose tout à fait traditionnelle dans la diplomatie. C'est ce qu'on appelait à l'époque les entretiens à proximité, c'est-à-dire que M. Bunche était assis dans une pièce et que dans une autre pièce à sa gauche étaient les Arabes, de là une autre pièce à sa droite ou peut-être dans l'autre sens, je ne sais pas, les Israéliens, et qu'ils ne voulaient pas être assis dans la même pièce ni se voir. Et jamais il n'y a eu une rencontre entre les parties. Il était au milieu et il faisait la navette. Et c'est lui qui a fait finalement responsable de faire observer, enfin du moins sur papier, la trêve qui a donné lieu aux divers accords d'armistice entre Israël et les pays voisins, l'Égypte, la Syrie, le Liban.
Donc comment a évolué au fil du temps le mandat de l'ONUST et comment finalement, toujours donc de New York, on a pu suivre son évolution?
Oui, c'est en effet quelque chose de curieux, n'est-ce pas, que l'ONUST, c'est probablement l'organisme le plus ancien, puisqu'il fonctionne toujours, quoi, et qu'il y en a encore un petit peu ailleurs. On n'aurait jamais cru à l'époque que ces créations, n'est-ce pas, durent aussi longtemps. On disait d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y a eu un peu plus tard des observateurs également des Nations Unies dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan, au Cachemire, qui existe toujours. Et on disait que l'ONU passait son temps à s'occuper des problèmes résultant de la dissolution de l'Empire britannique. Enfin, il est bien évident que le problème du Moyen-Orient, comme il est devenu après, quand il a été appelé, a occupé une partie énorme dans l'histoire des Nations Unies. Peut-être moins maintenant, aujourd'hui. Mais du point de vue concret, l'ONUST, donc le quartier général est à Jérusalem. Il a eu quelquefois des problèmes de logement quand il y a eu en 67 notamment, parce que bientôt, il y a eu d'autres opérations des Nations Unies au Moyen-Orient, dont la plus spectaculaire, enfin la première, la plus importante, a été ce qu'on appelait la FUNU ou l'UNEF. Ça, c'était en vérité un petit peu autre chose que l'ONUST, parce qu'il ne s'agissait pas d'observateurs, il s'agissait de contaminants.
C'est maintenant aux observateurs de l'ONU que le général Stockwell a accueilli à Port Saïd, qu'il appartient d'organiser la relève sur le canal. Dès leur arrivée, les observateurs ont pris dans leur voiture blanche la direction des lignes égyptiennes. L'ONU a maintenant pris en main le problème du canal. Le monde attend la suite.
Mais des contingents qui n'étaient toujours pas armés, du moins ils étaient armés, mais d'armes légères. Et leur mandat, comme toutes les forces des Nations Unies, il n'est jamais d'attaquer, ni même de riposter. Ils ne peuvent utiliser ces armes que pour se défendre. C'est une chose très particulière. D'ailleurs, tout ce système des opérations de maintien de la paix a été improvisé parce qu'il n'y avait rien de tel dans la charte des Nations Unies. La charte prévoyait des armées composées des grandes puissances. Or, malgré des réunions bimensuelles du comité d'état-major pendant 40 ans, ces forces n'ont jamais été créées. Les pays ont proposé, ont offert, ont donné, ont payé, financé des contingents. Certains pays ont même entraîné des contingents pour le cas où on leur demanderait, mais il n'y a jamais eu d'autre chose. Ce qui fait que les casques bleus, comme on les a appelés plus tard, sont devenus, moi, ce que j'ai appelé souvent le fleuron de la couronne des Nations Unies. Et la FUNU, en 1956, a été créée au moment d'une autre guerre dans le Moyen-Orient.
Anne Tuckerman, la charte des Nations Unies et les textes fondamentaux donc, qui ont présidé à la création de l'organisation n'avaient pas prévu en tant que telle donc, la création des opérations de maintien de la paix. Alors comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait de façon empirique? Et comment concrètement donc, le Conseil de sécurité a décidé de créer l'ONUST?
Oui, absolument, c'est empirique et c'est improvisé. Il n'y avait là rien de tel. Comment agir? Que faire? Comment résoudre un conflit au mieux et comment empêcher des affrontements militaires dans l'immédiat. Et c'était au fond le secrétaire général et les délégations influentes qui avaient des idées et qui mettaient ça en commun et ils écrivaient une résolution qu'on présentait au Conseil de sécurité. Donc l'ONU, il s'agissait d'observateurs. Ce n'est véritablement qu'en 1956, lors de l'affaire de Suez, qu'une opération de maintien de la paix dite telle a été créée. Et là encore, ça a été improvisé. Comment faire ? Et ça a été une idée conçue de concert par le secrétaire général de l'époque, Dag Hammarskjöld, et le président de l'Assemblée générale, qui était le ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Lester Pearson. Et ils ont cherché, à cette époque d'ailleurs, comme à d'autres, aux Nations Unies, et le haut secrétariat, et les gens qui travaillaient comme les journalistes, et les délégations travaillaient 17 heures par jour, sinon plus, n'est-ce pas ? À l'époque, en 1956, il y a même eu une crise cardiaque qui aboutit à la mort d'un des hauts fonctionnaires. C'est tellement dur. Donc ces choses ont été improvisées. Et plus tard, d'ailleurs, l'ONU a créé une espèce d'une commission chargée d'élaborer des règles pour les opérations de maintien de la paix. Comment, quoi, qui, dans quelles circonstances, avec quel mandat, quelles limites, ce genre de choses. Et peu à peu, n'est-ce pas, c'est devenu une institution. Mais certainement, au moment de l'ONU, il n'y avait rien. Et il n'y a eu rien de plus formel jusqu'en 1956.
Lorsque les troupes, donc les observateurs, pour parler plus précisément, ont été déployés sur le terrain, rapidement donc ils ont essayé d'observer donc tel était leur mandat, et on constate que le second semestre de l'année 1948, il y a déjà sur les 36 observateurs initiaux, il va y avoir 8 d'entre eux donc qui vont périr dans l'exercice de leur fonction. Alors comment ça a été perçu à New York ?
Avec beaucoup de tristesse, mais de choc. Évidemment, dès qu'il y a un conflit militaire et qu'il y a des officiers et des soldats qui sont mêlés à ça, il y a toujours le danger, n'est-ce pas, d'accidents, de blessures et de morts. Il y a eu pas mal de cas, d'ailleurs, où ces morts ont été le résultat de mines, où il n'y a pas eu de gens qui ont été tués. Bernadotte, oui, a bien été assassiné par une bombe. Je crois que les gens de l'ONU, qui sont toujours en place, ils sont comme une espèce de base à laquelle se réfèrent toutes les autres opérations au Moyen-Orient. Je crois qu'ils ont un immeuble quelque part à Jérusalem, et là aussi ils se déplacent, naturellement, ils sont envoyés. Et parfois, quand il y a une autre opération de maintien de la paix, on y envoie comme, je sais pas, comme anciens ou comme cadres, des gens de l'ONUST qui connaissent très bien la région et qui peuvent aider dans les communications, dans l'installation de ceux qui y arrivent, qui sont maintenant, le plus souvent d'ailleurs, des militaires de carrière, enfin pas des observateurs, mais des membres de contingents.
À l'époque, justement, les premiers observateurs étaient également des membres donc des contingents belges, français et américains.
C'était des officiers de carrière choisis comme ça, volontaires sans doute, en petit nombre. On ne peut pas dire qu'il y avait une division ou un bataillon ou quelque chose de tel. C'était des militaires de carrière. Il y en a encore, il y a encore de ces groupes maintenant qui font un autre travail. Par exemple, d'observer les élections dans des pays où il y a des troubles. Et on envoie des militaires, par exemple. Des gendarmes français ont supervisé des élections au Salvador. Un groupe important de gendarmes, c'est-à-dire de hauts officiers français, ont eu ce rôle, chargé par les Nations Unies. Donc c'est une institution qui s'est transformée, mais qui existe encore. Et tout ça, c'est l'histoire des Nations Unies telle qu'elle s'est faite, pas telle qu'elle était prévue.
Anne Tuckerman, je vous remercie.
Voilà, fin de cette édition consacrée aux 70 ans des casques bleus de l'ONU, grâce au témoignage donc d'Anne Tuckerman, ancienne correspondante de l'Agence France-Presse à New York, un témoignage recueilli en mai 1998. Ce magazine escale d'ONU Info a été préparé, présenté par Jérôme Longuet, avec l'aide de Carlos Macias et de Florence Westgaard. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.